on l'a dit, hein, des prix tout à fait raisonnables aussi, à partir de 20 francs pour les enfants, 40 francs pour les adultes, différentes possibilités. Un site sur lequel vous pouvez glaner toutes les infos, avancheopéra.ch, avance avec S, attention. Des paniers pique-niques aussi, hein, possibilité pour vous d'acheter des paniers pique-niques et d'aller pourquoi pas un peu avant, comme ça, dans les arènes, déguster votre pique-nique en attendant ces grands airs d'opéra. Beaucoup de grands airs, justement, beaucoup d'artistes aussi, hein, 200 artistes sur scène, Laurent. C'est vrai que c'est une grande et une belle distribution également pour ces airs d'opéra.
Oui, ça permet de varier beaucoup, surtout le son, entre des airs très intimes avec un chanteur, des choses plutôt lentes qui font, qui donnent une ambiance particulière. Puis alors l'explosion du grand outil avec le grand chœur, l'orchestre et les solistes ensemble. Voilà, ça permet beaucoup de variété.
L'orchestre de chambre fribourgeois, bien sûr, sous votre direction, hein, Laurent Gendre. Les chœurs sont sous la direction de Pascal Maillère. Il y aura également les Marmousets. Il y a aussi, bien sûr, d'autres chœurs, allant des chœurs de la région également, Laurent.
Alors, Pascal Maillère a réuni un chœur qui est formé en bonne partie d'amateurs, mais il y a aussi une partie de professionnels dans ce chœur, ce qui permet d'avoir beaucoup de qualité vocale, mais aussi beaucoup de punch, beaucoup d'énergie. J'avais encore un très bon souvenir de
l'édition précédente
où le chœur avait fait une magnifique prestation.
Ouais, et pour vous, qu'est-ce qui change finalement, Laurent, en termes de tension, de concentration aussi, d'émotion par rapport à un opéra plus classique, hein, qui peut durer de 3h à 3h30, etc. Est-ce que c'est différent en ce qui vous concerne en tant que directeur?
C'est plus condensé, c'est plus concentré. Ça veut dire qu'on passe vraiment d'un opéra à l'autre. Bien sûr que dans la continuité du programme, on a été attentif à faire en sorte qu'il y ait de la variété, justement, qu'on n'ait pas des choses qui se répètent, mais qu'à chaque fois, on passe dans un autre monde, ce qui permet à chaque fois de captiver le public, et donc ça fait comme un opéra en plus concentré avec beaucoup de choses qui se passent tout le temps, et comme je disais avant, cette variété qui nous fait passer d'un monde sonore à un autre très rapidement. Donc tout ça fait beaucoup de plaisir, bien sûr, mais ça donne aussi ça donne beaucoup de sentiments et d'émotions concentrées dans un temps plus réduit.
Ouais, effectivement. Bien, vous avez démarré, je crois, les répétitions maintenant.
On va commencer demain.
Demain. Ah.
Le chœur travaille déjà depuis pas mal de semaines, mais pour l'orchestre, ça sera demain.
Ouais. Et vous le faites directement sur place?
Premières répétitions, on est dans une salle. Oui,
ouais,
oui.
D'accord.
Alors, on n'a pas les solistes, et donc ça nous permet de répéter la journée aussi à partir de dimanche soir. On est dans les conditions réelles du spectacle, avec la luminosité réelle du spectacle dans les arènes.
À vivre en tout cas du côté d'Avanche Opéra en fête, 21, 22, 28, 29 juin, site avancheopéra.ch. Quelque chose à rajouter, Michel, avant de se quitter sur un air de Verdi, d'Aïda?
Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'avec cette heure, on vous a donné envie de venir à Avanche, de venir découvrir ces magnifiques titres dans ce lieu qui est extraordinaire. Et voilà, je vous invite toutes et tous à venir partager ce moment avec nous.
Il y a des billets, bien sûr, encore, soit sur le site, où est-ce qu'on achète autrement les billets, Michel?
Oui, c'est ce qu'on peut le dire, dans les points de vente traditionnels, Ticket Corner, ou tout simplement par téléphone au bureau d'Avanche, à l'Opéra Avanche, ou par Internet, ou par mail, comme vous voulez.
Avancheopéra.ch pour le site. Voilà. Que la fête soit belle. On se quitte en écoutant un extrait d'Aïda de Verdi, puisque Verdi est également à l'honneur, bien sûr, dans le cadre de cette édition d'Opéra en fête 1919.
On 2019. On n'est pas loin, on n'est pas loin.
Précisément. Belle journée à toutes et à tous.
Radio FR. Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Descorvets ?
Oui, bonjour Monsieur Descorvets, Sophie Delacroix, directrice de la start-up
bonjour.
Le Comptoir des Terroirs. Merci de me répondre. Écoutez, je vous explique ma démarche. Je souhaiterais réaliser avec ma start-up des calendriers pour l'année 2016 et je suis à la recherche de personnalités dans différents cantons de Suisse romande. Et j'aurais aimé voir si pour le canton de Fribourg, il y aurait possibilité de faire un accord avec Radio Fribourg.
Alors, ça devrait être possible.
L'idée, c'est en fait de promouvoir les produits du terroir avec les personnalités de chaque canton.
Ouais.
Est-ce que dans
vous aimeriez
vos...
que ouais. Et puis là, vous aimeriez que par notre biais, on vous propose des personnalités.
J'aurais voulu travailler en fait avec les radios de chaque canton. Donc, je ne sais pas si dans votre entreprise, il y aurait peut-être des personnes avec un potentiel pour apparaître sur un calendrier.
Ah, d'accord. Ok. Je comprends la démarche. Alors, ça il faudrait voir. C'est une bonne question. C'est une excellente question. Alors oui, bon, ça serait possible, oui.
Non, parce que j'ai déjà fait les démarches auprès d'autres radios et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que les physiques de radio étaient un peu difficilement visionnables pendant tout un mois complet. Alors je m'interrogeais sur ce qu'il en était du côté de Fribourg, si j'ose.
Ah, non, mais chez nous, ils sont tous beaux.
Ah, magnifique.
C'est un peu ça. Non, mais écoutez, ça devrait être possible. Est-ce que vous avez un dossier ou quelque chose de ce que vous allez faire?
Donc là, l'idée, ce serait d'avoir des gens qui font la promotion des différents produits du terroir. Donc pour ce qui est du canton de Fribourg, on pense aux meringues, à la crème double. Enfin, je vous fais pas le dessin.
Ouais, ouais.
Enfin, on s'est dirigé vers les différents cantons. Et l'idée, ce serait d'avoir, par exemple, pour le canton de Fribourg, quelqu'un avec un jambon, mais qui soit que les gens soient dénudés. Vous pensez qu'il y aurait possibilité?
En plus. Ouais, là, ça se complique un peu, effectivement.
Ah, c'est vrai. Vous n'avez pas des gens... Écoutez, est-ce que vous avez encore 2 minutes?
Oui.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon directeur marketing, monsieur Briachon, qui va discuter avec vous un petit peu pour vous spécifier les modalités et les précisions. Il est juste à côté de moi, mon directeur. Je vous le passe tout de suite. Hein.
Merci.
Un petit instant.
Allô? Allô?
Oui?
Oui, bonjour. Marc Briachon.
Bonjour.
Je vous appelle, donc vous avez discuté avec ma collègue.
Oui.
Et donc, elle vous a expliqué un peu le concept.
En gros, oui.
Et donc, il s'agit de remplir les 12 mois avec, en fait, les produits du terroir et les personnalités du canton qui correspondent. Alors, nous, il nous faudrait, en tout cas, donc, pour compléter avec la partie Fribourg, on a 4 produits du terroir à mettre en avant, et donc il nous faudrait 4 personnalités.
Donc, de la radio, non?
Bien sûr.
Ok. Bon, écoutez, il faudrait leur poser la question.
Alors, ma collègue vous a dit que qu'on cherchait des personnes dénudées, c'est même un peu plus que ça, hein, je tiens à vous le dire, pas que vous soyez surpris, mais il nous faut quand même...
Je ne suis pas surpris, mais c'est eux qui risquent d'être surpris, hein.
Alors,
écoutez,
nous avons par exemple,
il faudra leur poser la question. Moi, a priori, je pense pas que ça. J'ai mes doutes.
Vous avez des doutes?
Bon, ça verra.
Pourquoi vous avez des personnes pas vraiment présentables?
Mais écoutez, le plus simple, c'est que vous allez sur le site de la radio.
Alors attendez.
Radiofr.ch.
Voilà.
Et puis vous allez soit sur Fribourg ou Freiburg, vu qu'on a les deux stations. Puis après vous allez dans administration, animation, modération.
Alors animation,
vous regardez un peu. Ou l'équipe, je crois que c'est l'équipe.
Team, voilà. Alors team. Nous aurions éventuellement des personnes... Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y a Marion peut-être. Marion, c'est une animatrice
Absolument, oui, du week-end.
D'accord, Marion peut-être pourrait participer.
Ah ben, il faudra lui demander.
Alors, écoutez, on note peut-être sur notre liste Marion. Qui c'est qui, d'après ce que je vois, vous avez également Elodie, peut-être?
Elodie, oui, bien sûr. Mais encore une fois, il faut lui demander.
Bah, j'imagine que cette fille doit pas avoir trop de problèmes. Elle a déjà un décolleté sur la photo qui est assez impressionnant. Hein.
Alors, certes.
Après, il nous en faut encore 2, éventuellement. Bon, sœur Marie-Pierre, je ne sais pas.
Ah, peut-être pas.
Non,
je suis pas sûr quel jour est le jeu. Mais si vous pensez à Elodie.
Vous-même, vous n'êtes pas dans la liste.
Regardez peut-être. Ouais, mais moi, je suis pas une grande personnalité, c'est pour ça.
Oui, bon, mais de toute façon, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de mettre en avant le produit du terroir.
Rio qui fait les matinales avec Elodie.
D'accord.
Attends, je vais demander aussi.
Ça, je sais pas. Physiquement, je sais pas s'il correspondrait au profil. Hein. Il y aurait pas mal de retouches.
Ah, mais ça, c'est votre job après.
Comme Mike, par exemple, aussi.
Alors, pourquoi pas? Il faut varier.
Alors, je pense qu'il faut peut-être prévoir plus que 4 personnes.
De nos critères en même temps.
Oui, justement, en fonction de nos critères, il va falloir prévoir peut-être plus de personnes parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sera d'accord de participer.
Ouais, non, effectivement.
Merci beaucoup.
Hein oui. Très bien.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci de votre participation. Je vous repasse ma collègue pour les modalités d'envoi. Merci. Au revoir.
Vous avez passé l'épreuve du poisson d'avril.
Avec les toyers.
Voilà. J'ai eu un monstrueux doute avant. C'est un monstrueux doute.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé Télématin sur France 2 pour apprendre une bien triste nouvelle, mais qui n'a pas été comprise par tout le monde sur le plateau, visiblement.
Disparition. La disparition de Bobby, qui avait 31 ans. On a déjà parlé ici à Télématin. C'était le chien le plus vieux du monde.
Ah.
Regardez, alors Bobby nous a quittés.
J'ai cru que vous parliez de Bobby dans Dallas.
Ah non.
Ça m'avait fait peur.
Excusez-moi pour la confusion. Bobby. Pas Bobby et Wig, mais Bobby.
Mais ça reste triste quand même.
Voilà. Oui. Bobby avait 31 ans.
31 ans.
Ça veut dire que si on multiplie son âge par 7, c'est l'équivalent de 217 ans. Et ça, c'est assez extraordinaire pour un chien de cette race, le Raffaello.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est une autre histoire.
Et oui, c'est l'heure de notre leçon d'histoire, comme tous les mardis. Je ne compte plus le nombre de fois où nos auditeurs nous disent « Ah, si seulement j'avais eu un professeur d'histoire comme Alain-Jacques Tornard, mais j'aurais aimé l'histoire à l'école. » Ça vous fait plaisir, ce genre de compliment, Alain-Jacques.
Tout hein. à fait. Justement, en tête, je expliquais à Mike que j'avais la soirée, la journée des grenadiers à Gruyère, enfin, la présentation du président du Grand Conseil, qui est de Gruyère. Et puis, tout à coup, je vois deux fois de suite, hein, indépendamment deux monsieur qui portaient beau vraiment avec leur costume, dit faut absolument que je vous présente ma femme.
C'est suicidaire, comme attitude.
Elles adorent ce que vous faites et tout et tout. Alors, c'était un moment très très sympathique, justement, de voir que voilà, nos auditrices, nos auditeurs sont bien présents et aiment ce que nous faisons. Mike.
Il aime les bains de foule, Alain-Jacques Tornard. Il adore aller visiter des expositions. L'exposition qui vous a vraiment touché, Alain-Jacques, c'est l'exposition Naturalisation qui se tient en ce moment au musée Gruyère. Il n'y a rien à Bulle. Hein.
Oui, je craignais un petit peu des fois. Vous savez, ce thème d'exposition, on se dit c'est des prises de tête. Ben non, on déambule dans le cheminement en fait des candidats à la naturalisation. Alors il ne faut pas se tromper de porte. Hein, si on vous dit, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes à l'assistance sociale, est-ce que vous êtes, vous avez un cahier. Alors là, hop, retour à la case départ. Hein. Donc et c'est un cheminement comme ça. Puis à un moment donné, vous êtes devant une vitrine comme une glace sans teint, vous savez, et puis vous entendez comment on interviewe les candidats à la naturalisation.
Beaucoup de questions auxquelles certains Suisses n'arrivent même pas à répondre.
Alors
hein.
Oui, justement, d'ailleurs moi-même je m'étais battu avec Jean-Pierre Coussa, qui est responsable des naturalisations à l'État de Fribourg, pour que ces questions soient un peu plus révélatrices de degré d'intégration, parce que quand vous demandez à quelqu'un qui est tout à fait sympathique et qui est un, je sais pas, qui lave la vaisselle, de savoir les méandres de notre politique, bien sûr qu'ils ne savent pas, et ça veut pas dire qu'ils sont pas intégrés. C'est
sur
pas
le plan social, oui, bien sûr.
Et puis ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'on voit aussi quelles sont les personnes qui font partie de ces commissions locales, et eux-mêmes se font interviewer pour un peu donner leur point point de vue, en l'occurrence par exemple, tiens, qu'est-ce que c'est que l'identité gruyérienne, à quoi cela aboutit. Donc, et à la fin, on peut se faire photographier sur un grand siège, avec le passeport suisse à l'arrière, comme quoi on est devenu. Alors c'est un peu les faiseurs de Suisse, vous vous souvenez?
Oui, du voilà, le film avec Émile, bien sûr, j'allais le citer, ça tombe bien.
Je signale que c'est une exposition qu'on peut visiter aussi avec les enfants, ils font beaucoup de choses pour les écoles, et puis aussi pour tout le public.
Et même... si cette exposition vous touche, c'est pour une raison toute particulière, Alain Jacques.
Ben, parce que moi-même, en tant que fils de Suissesse, mais qui avait perdu sa nationalité, j'ai dû faire le processus de naturalisation. D'ailleurs, c'est un peu ce que je regrette dans l'exposition. On ne voit pas cet aspect que finalement beaucoup de Suisses ont été directement des Suisses d'origine.
Ouais, une Suissesse à l'époque qui épousait un étranger devenait étrangère.
Exactement,
dans son propre
jusqu'en
pays,
1952.
Et les enfants aussi.
Ouais, et ensuite, ouais, il fallait réintégrer la maman, ouais, et fou, les enfants devaient se faire naturaliser s'ils n'étaient plus, s'ils n'étaient pas tout petits. Et d'ailleurs, vous savez que moi-même, j'ai écrit le guide historique du canton de Fribourg pour les naturaliser. D'ailleurs, je regrette un peu qu'on ne le présente pas à la fin parce que ça pourrait être justement intéressant de montrer que, voilà, ça nous concerne tous, la naturalisation.
Bien sûr, bien
je
sûr.
Signale juste que le mercredi 1er juin à 19h, il y a des visites ludiques avec les guides du musée et une personne naturalisée, par exemple.
D'accord. Exposition Naturalisation, le coup de cœur d'Alain Jacques, hein, ça se tient au musée gruyérien à Bulle jusqu'au 16 octobre prochain. Je signale également le livre qui est un peu le catalogue de l'exposition, ça s'appelle Naturalisation, immersion dans la fabrique des Suisses d'Anne Christol et Janine Dainden, avec des photographies de Francesco Ragusa. C'est paru aux éditions Seismo. On va revenir en 8 mai 1945, hein, parmi les dates anniversaires que nous explorons aujourd'hui dans cette émission C'est une autre histoire. On va évoquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre en Europe, mais pas partout. On va le voir dans quelques instants avec Alain Mardy.
C'est une autre histoire.
Dimanche dernier, les Suisses fêtaient leur maman. Toute autre célébration chez nos voisins européens, nos voisins français notamment, hein, le 8 mai 1945, c'était en effet la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Alors je précise bien, en Europe, Alain Jacques Tornard, hein, car entre les États-Unis et entre les États-Unis et le Japon, les hostilités ont quand même duré jusqu'au 2 septembre 1945. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a une grande confusion autour de cette date. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le 8 mai... Autant on parle du 11 novembre 1918, 11 novembre, Punktschluss, c'est pas le 10, c'est pas le 11, c'est pas le 12, c'est le 11. Mais le 8 mai, ni pour les Russes, même pour d'autres pays, c'est pas le 8 mai. Déjà parce que, bon, Hitler s'est suicidé le 30 avril, donc là, c'est la fin pour l'Allemagne. Mais la capitulation, en fait, elle a été signée à Reims, le 7 mai. C'est le général Alfred Jodl, dans la nuit du 6 au 7 mars, de 7 mai à 2h41 du matin, signe la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, de l'Allemagne tout court d'ailleurs. D'ailleurs, quelques mois plus tard, il sera pendu après les procès de Nuremberg. C'est assez étonnant de voir d'ailleurs que tout le monde y participe à cette soirée cette nuit du 7 mai. Même les Français sont là comme témoins pour signer. Mais les Russes qui sont bien présents, hein, qui signent eux aussi la capitulation, c'est le général soviétique Ivan Suslopavov qui est bien présent. Mais eux exigent que ça se passe aussi à Berlin. Pourquoi Berlin? Parce qu'ils ont pris Berlin.
Berlin est
sous domination soviétique à ce moment-là, depuis une dizaine de jours.
Il y a les drapeaux qui flottaient aussi,
voilà,
forcément.
Exactement.
Hein.
On a tous cette image du Reichstag, la prise du Reichstag, le drapeau soviétique. Donc c'est très symbolique. Mais le problème, c'est que ça se passe, la signature, le 8 mai, donc le lendemain, à 23h01. C'est-à-dire, c'est le moment où il y a la cessation des combats, effectivement. Hein. Et mais à 23h01, en fait, on est 1h01 de Moscou.
Ah.
Et c'est pour cela que les Soviétiques estiment que la fin des hostilités, c'est pas le 8, mais c'est le 9 mai.
C'est le 9. Ouais.
Mais tout le monde
une histoire de fuseau horaire.
Ouais, ouais. Mais tout le monde a eu des petits problèmes avec cette date. Encore une fois, autant le 11 novembre symbolise beaucoup de choses, le 8 mai, même les Français avaient abandonné la commémoration du 8 mai sous le président Giscard d'Estaing. Et c'est sous la pression de la population qu'on avait rétabli en France le 8 mai comme jour de fête férié. Vous remarquerez que la plupart des États européens ne commémorent pas, en tout cas n'ont pas fait un jour férié de cette date.
Oui, en France c'est férié, mais pas en Allemagne par exemple. Hein.
Exactement, on peut comprendre pour les Allemands. Quand même. Mais même la Grande-Bretagne par exemple, si je ne m'abuse, ce n'est pas férié. Par contre, pour les Russes, c'est une grande fête, mais eux-mêmes n'ont pas toujours donné ce sens à cette fête, une fête aussi importante qu'on pourrait l'imaginer. Longtemps, jusqu'en 1995, on commémorait pas vraiment sous la forme d'un jour férié aussi. C'est après que la force symbolique de cette date, la victoire sur le triomphe sur le nazisme, quand même, faut pas oublier que la Russie, l'Union soviétique, c'est à peu près 20 millions de morts hein, pour eux, contre 400 000 pour les Américains, 250 000 pour les Français, par exemple. Hein, quand on compare, c'est quand même très défavorable. Le nombre de morts pour les Russes, c'est incommensurablement plus important. Or, ce que l'on voit, c'est que pour les Russes, c'est une date hyper importante. Il y a là une force symbolique énorme. On le voit bien lors de la dernière commémoration. Ça a été magnifiquement entre guillemets, mais bon, bien quand même instrumentalisé par Poutine.
Ouais, faut quand même sur fond de guerre contre l'Ukraine, hein, forcément.
Voilà. D'ailleurs, Emmanuel Macron a pu dire « Pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Une fête qui symbolise la victoire contre le nazi a aussi une symbolique particulière, bien entendu, dans la guerre actuelle contre l'Ukraine. »
On avait peur d'ailleurs que Vladimir Poutine profite de cela pour faire une véritable déclaration de guerre à l'Ukraine, ce qui aurait monté le conflit d'un cran encore. Hein.
Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion pour dire quand même, là, ça n'a pas été tellement relevé, parce que là, il les a vraiment bien piégés, les Occidentaux, parce qu'on s'attendait même à la mobilisation générale, on s'attendait à beaucoup de choses de la part de Poutine, et finalement, son discours a été quand même assez pondéré, il nous a vraiment pris à contre-courant, hein, faut bien le dire, et Vladimir Poutine, faut quand même pas l'oublier que pour eux, c'est une sorte de guerre, la guerre sainte, la grande guerre patriotique, et il y a le chant qui chantait à ce moment-là, c'est une guerre, c'est pour ça que c'est très important, parce que dans ce qui arrive actuellement, on oublie la dimension religieuse, hein. Or le chant, grand chant patriotique qui est chanté, est un chant entendu lors du défilé où on parle de guerre sainte, d'ailleurs en présence du patriarche Cyril qui est bien présent. Vous remarquerez aussi que personne d'autre n'a participé avec les Russes à cette fête, ils n'étaient pas invités, mais même les États proches comme le Kazakhstan par exemple. On a aussi les anciens pays baltes ne commémorent plus le 9 mais le 8 par exemple. Là on voit bien qu'il y a quand même un grand isolement dont a pris acte Poutine, d'ailleurs que je trouvais assez quelque part pathétique, là il avait même un plaid sur les genoux, on aurait dit presque un vieux monsieur, c'était presque un petit peu tragique de le voir ainsi abaissé.
Le 8 mai 1945, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale à l'instant, on évoquera un conflit beaucoup plus ancien, la guerre franco-allemande de 1870, puisque le 10 mai 1871 a été signé le traité de Francfort qui mettait fin à cette guerre. Quelles ont été les conséquences pour la Suisse? Car il y en a eu. Ben, Alain-Jacques Tornard nous raconte cela dans quelques instants. Et puis la Suisse, doit-elle flirter davantage avec l'OTAN? Voilà la question qu'on va se poser après l'info de 8h30 sur Maison.
C'est une autre histoire.
Une majorité de Suisses, 56%, approuve une collaboration avec l'OTAN. Pouvait-on lire dans le temps, il y a 3 semaines, mais il ne s'agit que d'un vœu de rapprochement. Attention, hein, seuls 33% de nos compatriotes se prononcent pour une adhésion de notre pays à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, que faire dès lors, Alain-Jacques Tornard? Peut-on envisager, je sais pas, des bilatérales entre la Suisse et l'OTAN, comme c'est déjà le cas avec l'Union Européenne?
Moi, je dirais que c'est déjà fait. D'ailleurs, la comparaison avec l'Union Européenne est excellente. Hein. On veut sauvegarder notre indépendance par rapport à l'Union Européenne.
On aime bien les unions libres chez nous, vous avez remarqué,
c'est
déteste s'engager.
On est vraiment dans le concubinage historique. ça risque souvent d'être contre-productif parce qu'on est intégré de fait dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, quelque part.
On n'a pas de pouvoir décisionnel. Hein.
Mais voilà, on doit en appliquer les règles sans participer aux décisions. Bon, vous allez me dire, les décisions en ce qui concerne l'OTAN, est-ce qu'elles sont prises où je me dirige directement vers... Voilà.
Ouais. Déjà qu'on dit que l'Europe n'est pas toujours très, très collégiale, mais qu'en est-il de l'OTAN, hein,
exactement. Alors, il faut dire aussi que c'est sa nature même. C'est dans son ADN. Elle a été créée en 1949, hein, je le rappelle, le 4 avril. En fait, c'est un produit, pur produit des États-Unis avec leurs alliés du Royaume-Uni. Quand je dis alliés, j'ai hésité sur le mot alliés parce que, pour ne pas dire leur... parce qu'ils étaient vraiment sous domination. En fait, ça a été dirigé dès l'origine contre l'Union soviétique. C'est dans son ADN. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le nom, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Voilà.
Hein, on voit bien où se situe. Et les pays fondateurs sont tous originaires de cette région. La Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. Portugal très lié aux Anglais. Alors, voilà, c'est un des instruments de la guerre froide. Ensuite, il y a eu les Turcs, les Grecs qui ont rallié. Alors, ça a été un aspect positif quand on parle du côté paisible, apaisant de l'OTAN, puisque des gens qui sont des ennemis, en fait, potentiels, les Turcs et les Grecs, en font partie. Hein. L'Allemagne aussi, l'Allemagne fédérale, naturellement, pas toute l'Allemagne, en 1955, l'Espagne en 1982, mais ensuite, et c'est là que ça a commencé un peu à titiller nos amis russes, c'est que tout le bloc de l'Est est passé en bloc du côté de l'OTAN.
Voilà, après la chute du rideau de fer.
La République tchèque, la Hongrie.
Parce qu'oublions pas qu'avant, il y avait ce qu'on appelait de l'autre côté, le pendant de l'OTAN, c'était le pacte de Varsovie.
Le pacte de Varsovie. Voilà. Alors forcément que lui, il est mort.
Il a volé en éclats.
Il est mort avec la fin de l'Union soviétique et l'effondrement du bloc de l'Est. Mais bon, je ne reviendrai pas sur le fait sur la progression de l'OTAN petit à petit sur le précaré des Russes, hein, puisque voilà, la Croatie, l'Albanie en 2009, tous ces États autrefois communistes ont rejoint l'OTAN. Et bien sûr, ça n'a pas du tout plu à la Russie. Alors, qu'en est-il de la Suisse ? Il y a une convergence d'intérêts dès le début, forcément. On a toujours fait preuve en Suisse d'un anticommunisme féroce, qu'on le veuille ou non. La neutralité suisse, elle était quand même très favorable on l'a d'ailleurs vu la semaine dernière, aux puissances occidentales. Mais une adhésion de la Suisse à l'organisation était hors de question, historiquement hors de question.
À cause de la neutralité ?
Exactement. Alors, on a coopéré. C'est toujours ambigu. Il y a ce qui est dit, Mike, et ce qui n'est pas dit.
Vous aimez bien les non-dits, vous avez bien mettre le doigt dessus.
Officiel,
hein.
et pas officiel. Alors forcément, on a fait pas mal de commerce, d'armes. Dans la formation, officiellement, on a beaucoup collaboré avec l'État, l'OTAN, avec la formation. Pour la première fois en 1952, cette conjonction d'intérêts conduit toujours dans un cadre informel et non contraignant, hein, c'est très important, à une meilleure, comme on dit, coordination des plans d'opération en cas de guerre. Hein, voilà. Mais il ne pourrait être question d'arrangement opérationnel à caractère obligatoire, surtout pour des actions au-delà du territoire suisse. D'ailleurs, en 52, chose qui n'est pas très connue, la Suisse avait envoyé une requête qui allait être repoussée en but d'obtenir des garanties pour son approvisionnement en cas de guerre.
Il y a 70 ans, autrement
dit. Voilà, et la Suisse amena l'OTAN à élaborer une position de principe à son égard. Mais l'organisation, vous avez dit quelque chose, un mot très juste tout à l'heure, Mike, les bilatérales, et bien c'est ce qu'a encouragé l'OTAN. C'est-à-dire des accords bilatéraux avec les voisins pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. En fait, il y a eu des contacts beaucoup plus approfondis. D'ailleurs, il y a eu un scandale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, l'organisation secrète de résistance P26, cet accord avec les forces spéciales britanniques.
C'est vrai.
Bon, on a mis ça sous le boisseau. On a dit que c'est quand même l'affaire des colonels. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un épiphénomène.
Vous aimez remuer les vieilles histoires, en
quelques personnes isolées. Enfin, je veux pas d'ennui avec les services. Nous n'irons pas plus loin.
Quelle est cette grande limousine noire là, qui s'arrête devant nos studios?
C'est bizarre. Là, pourquoi y a un truc rouge là nous n'en parlerons donc pas plus. La Suisse participe pourtant à des opérations de maintien de la paix. Hein. Elle a adhéré au partenariat pour la paix. Alors moi, j'aime bien ce partenariat pour la paix parce que parfois c'est surtout pour préparer des guerres. Hein. Donc on en est membre depuis 1995. 1936, le Conseil de partenariat euro-atlantique en 1997 permit à la Suisse de soutenir largement la politique de prévention et de résolution des conflits sur laquelle l'OTAN attendait mettre l'accent après la guerre froide. Et vous vous souvenez quand même que l'on participe depuis 1999 à l'intervention au Kosovo, qui n'est pas patronnée par l'ONU, mais par l'OTAN, voilà, qui est donc une organisation qui n'est pas neutre en ce sens. Hein. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que les Russes n'ont pas du tout cru, plus du tout cru en la neutralité suisse. Bon, vous allez me dire, ils n'y croyaient pas depuis très longtemps, puisqu'en 1945, ils ont mis la main sur les papiers des pris aux Français et aux Suisses en 1940 par les Allemands, et donc récupérés par les Russes en 1945. On parlait du traité le 9 mai 1945, mais ça, c'est un des effets pour la Suisse, parce que là qu'ils ont pu voir combien, en fait, on était très liés aux pays qui nous environnaient, qui nous environnent, pour, en ce qui concerne justement on dirait des accords plus ou moins secrets. Mais peut-on faire autrement? Nous sommes quand même dans un environnement. Encore une fois, être neutre, c'est pas être sur une île déserte. On peut pas faire autrement. Mais disons qu'on doit quand même se méfier, parce que l'OTAN n'est pas quelque chose de foncièrement européen. C'est avant tout un instrument entre les mains des États-Unis.
Vous vous méfiez toujours autant des Américains.
Disons que nous, comme on dit, faites ton choix, camarade. Si on fait le choix de l'Europe, on crée que le président Macron a proposé pas plus tard qu'hier, c'était quand même une journée de l'Europe, hein, faut pas l'oublier, ce 9 mai aussi, pour l'Europe, un partenariat étendu qui pourrait être beaucoup plus intéressant, et c'est peut-être une voie à explorer. Disons qu'on ne devrait pas jouer avec le feu, avec l'OTAN, pas aller savoir jusqu'où on peut aller trop loin.
J'ai remarqué qu'on a beaucoup utilisé le terme de guerre, hein, dans cette émission aujourd'hui, Alain Jacques Tornard. Donc forcément, on a parlé en début d'émission de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup évoqué le terme de guerre froide, hein, dans ces relations toujours compliquées entre la Suisse et l'OTAN. On va revenir sur un conflit un peu plus ancien, la guerre franco-allemande, hein, qui s'est achevée un 10 mai 1871, guerre là aussi. Et la Suisse, qu'en était-il de la Suisse au milieu de tout ça? Quelles ont été les conséquences pour notre pays avec la signature du traité de Francfort de Fribourg?
C'est une autre histoire.
Le 10 mai 1871 a été signé le traité de Francfort, mettant fin à la guerre franco-allemande débutée un an plus tôt. La France reconnaissait ainsi sa défaite, se voyait obligée de céder l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand victorieux, mais ce n'est qu'une des conséquences de ce fameux traité de Francfort. L'historien de Radio Fribourg m'a soufflé qu'il y a eu des répercussions jusqu'en Suisse, et nous sommes curieux de connaître lesquelles, Alain-Jacques Tornard.
Oui, bon, d'abord, revenons un peu sur ce traité. Alors, se trouve que ce qui est formidable, c'est que c'était une époque où on se faisait la guerre officiellement, on se déclarait la guerre, hein, et où on se faisait aussi des paix, on signait un traité de paix. On marquait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de traité de paix, par exemple.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, on en parle très peu de ce traité de Francfort, on parle de cette fameuse armistice du gouvernement de la Défense nationale.
Il n'est pas énormément documenté, d'ailleurs.
Oui, exactement, alors que, en fait, on parle de tous les sujets que nous avons traités précédemment, c'en est quelque part la conséquence. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ce traité de paix, comme vous l'avez rappelé, proclame la fin de la guerre, certes, mais aussi, comme vous l'avez dit, la perte pour la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, y compris la partie de la Lorraine où on parlait français autour de Metz. Pourquoi? Parce que les Allemands voulaient absolument mettre la main sur le bassin de Briey, qui était un bassin minier extrêmement important. Donc on s'est fait plaisir.
Il y avait de l'argent à se faire.
D'ailleurs,
pas que les guerres sont souvent économiques. Hein.
Et d'ailleurs, on s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent du côté allemand, parce que on a demandé 6 milliards de francs de frais de guerre aux Français, de dédommagement, une somme absolument colossale. C'est inouï. Les Français ont dû payer cela. Et que d'ailleurs, comme disait Thiers, il est toujours possible de récupérer des provinces perdues, mais quand les millions sont envolés, ils le sont à jamais. Alors, on avait convenu, bien sûr, que les troupes allemandes ne quitteraient le territoire français qu'une fois que tout cela serait payé. Et on va faire des emprunts. Alors là, on voit le côté que la France était un pays très riche à l'époque. L'emprunt a été mis le 20 juin 1871 avec un taux d'intérêt de 5%. Il est couvert à 2,5 fois sa valeur. Le gouvernement français devra refuser des souscripteurs. Et on devra émettre d'ailleurs sur le plan international, un emprunt international. Il y aura 1 million de souscripteurs, parmi lesquels de grandes banques internationales, y compris suisse, naturellement, et qui sera couvert donc à 14 fois sa valeur. C'était du jamais vu. Alors, ce qui va permettre aux Français de rembourser très vite. D'ailleurs, ils vont aussi, les Français, rembourser très vite les Suisses. Vous savez qu'après les Bourbaki, les Suisses avaient engagé des frais, et ils ont tous été remboursés, vraiment, rubis sur l'ongle. Hein. C'était vraiment extraordinaire de voir ça. Et le 16 septembre 1873, il n'y a plus de soldats allemands, la libération du territoire. Mais cela a des conséquences en Allemagne, c'est-à-dire que avec ces 6 milliards, on va pouvoir construire des tas de bâtiments en Bavière, on va pouvoir... Le Reichstag, le fameux Reichstag.
Le fameux, ouais.
Et ben, c'est en style néoclassique, surmonté d'une belle coupole à 75 mètres d'altitude. Mais ils n'avaient pas l'argent, les Prussiens. C'est les Français qui l'ont payé avec leurs frais de guerre. Et vous allez me dire, oui, mais avec les Suisses, alors là-dedans, c'est quoi les Suisses?
Vous avez déjà parlé des banques, mais je pense qu'il y a d'autres conséquences.
Oui, il y a un certain Victor Tissot, qui est né à Fribourg, hein, donc il est né à notre ville de Fribourg le 14 août 1844, et qui s'était installé à Paris, et qui a beaucoup écrit, et qui a écrit un ouvrage à succès, qui a été publié à de très nombreuses rééditions, Le Voyage au pays des milliards. Justement, c'est là qu'il raconte comment les Allemands vraiment ont siphonné la France du point de vue financier. Ça a été le best-seller absolu, ça a contribué d'ailleurs à l'esprit de revanche des Français. Il va créer le Hachette, etc. Et avec cet argent qu'il a gagné en faisant ce livre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le musée gruyérien.
Ah, le musée gruyérien. Voilà, on a même pu annoncer en préambule que c'est pas des conséquences pour la Suisse, c'est vraiment des conséquences pour Fribourg et la Gruyère. Hein.
Exactement. Ah ouais. Pour la Suisse, c'était plutôt le côté bancaire. Hein. Et donc, c'est pour ça que l'année prochaine, d'ailleurs, Mike, nous fêterons à Bulle, nous pourrons fêter à Bulle les 100 ans de la création effective, donc l'ouverture, parce qu'on a déjà créé, on a déjà fêté la création, mais là, l'ouverture du musée gruyérien et de la bibliothèque publique en 1923. Et ça, quelque part, c'était un peu grâce à les effets du
traité de Francfort. Voilà, c'est là qu'on voit que le monde est petit, hein, c'est incroyable.
Il n'y a pas que des saucisses à Francfort.
À la Jacques Tornard, toujours un plaisir de vous accueillir. Vous revisitez tellement bien l'histoire pour nous. On réfléchit déjà à ce dont on pourrait parler dans la prochaine émission. Vous avez, comme moi, entendu l'actualité ce matin. Marco, c'est un patronyme qui vous parle. Hein.
Ah oui, quand je pense, j'étais tout jeune à l'époque, quand il était président, son
Ferdinand
papa...
Ferdinand Marcos. Hein. Voilà, là, c'est son fils hein, qui vient d'accéder au pouvoir aux Philippines.
Rassurez-moi, pas tel père, tel fils.
J'en sais rien du tout. Hein. Pas plus que ça, suivi l'actualité dans ce pays très lointain, dont on a relativement peu parlé.
Alors, si on faisait une émission de la semaine prochaine,
J'allais vous le proposer, Jacques Tornard. Je sais que vous êtes toujours...
Nous allons nous rendre aux Philippines.
Toujours partant pour de belles destinations, et toujours partant, évidemment, pour des faits d'actualité, parce que voilà, c'est la modeste ambition de cette émission, c'est connaître notre passé pour comprendre le présent, pour mieux appréhender l'avenir. Portez-vous bien.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
C'est qu'il fait beau.
Voilà, au revoir, merci.
Next.
Non, bonne nouvelle, voici un peu de douceur dans ce monde de brut. Parce que nous sommes tous humains et avons tous droit à l'amour. Le Conseil américain de la publicité a mis en place une campagne qui s'appelle Love has no label. Littéralement, l'amour n'a pas d'étiquette. Ça se passe à Santa Monica, aux États-Unis. On a installé un grand écran dans la rue. On a diffusé les images de squelettes en train de s'embrasser ou de danser. C'est en fait un scanner corporel derrière lequel il y avait des vraies personnes, comme à l'aéroport. Tu sais, on voit,
oui, on voit l'escalette
voilà. Et puis derrière cet écran, des hommes, des femmes ou encore des enfants susceptibles d'être victimes de discrimination. Donc une fois la petite danse ou le petit câlin fait, ils ressortaient de l'écran devant le public qui s'était agglutiné nombreux devant cet écran pour rappeler que l'amour n'a pas d'âge, ni de genre, ni de couleur, ni de religion. On voit des couples homo, on voit des gens de diverses religions, on voit des noirs, des blancs, tout ça. Une petite fille qui est en situation de handicap. Bref, tous ces gens-là qui se prennent dans les bras et qui ressortent de chaque côté de l'écran. Et puis le public devant qui applaudit. On peut lire sur le site de la campagne. Il est temps d'embrasser la diversité. Mettons les étiquettes de côté au nom de l'amour. Un peu de tendresse donc avec cette campagne qui appelle à la tolérance et à l'amour pour tous, sans distinction de race, de genre, de couleur ou de religion. Vidéo touchante que je vous publie sur notre page Facebook.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux, la Baltie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Et non, Janine, t'es cool.
Ciao. Et Bernard, ciao.
Eh, Martine est la nouveau lutin, hein.
Ah bon?
Mais ouais, nouveau des problèmes avec son gamin, Crévin.
Mais quel quêtre celui-ci donc, hein.
Mais pourtant que t'avais eu été chez eux pour faire super Janine puis donner des conseils dans l'éducation, quand?
Ouais, puis quoi maintenant? Faut que je retourne ou bien?
Ben t'attends maintenant, moteur, faut le gaz, hein, faut ramener un peu des ronds à la maison, c'est bienvenu. Pas seulement que dépenser, aussi ramener la mune, c'était cool.
C'est bien été deux jours, mais là, c'est nouveau l'horreur. Faites quelque chose, super Janine.
Eh ben, Crévin, maintenant, hop, hein. Dans ta piole, tu te laves les dents, tu mets le pidge, et puis hop au pieu.
Oui, je vais tout de suite, super Janine.
Eh ben alors, Martine, faut pas bringuer avec ce knab.
Merci beaucoup, super Janine. Je peux enfin aller voir les feux de l'amour en paix.
Eh ben, ça, c'est une bonne chose de fait, hein. Ça, c'est schmart, hein. J'enverrai la facture. Vie immortelle. Ciao, bonne Martine, hein.
Au revoir, super Janine.
Après quelques adieux larmoyants, il est temps pour super Janine de partir.
Si vous aussi, vous rencontrez des difficultés avec vos enfants, contactez-nous au 3606.
Oui?
Toute école, Crévin. Tu chlaves pas?
Non, j'attends ce que tu m'avais promis.
Ben dis donc, tu perds pas le nord, toi, hein. T'en rates pas une, t'école. Tiens, ta oui.
Ouais, puis mes 100 balles.
Non, mais dis donc, on avait dit c'était la oui ou les 100 balles.
Non, c'était les deux, sinon je te dénonce.
Non, mais machin, rouvre toi. Tiens, tes 100 balles.
Et puis le playboy de cette semaine.
Eh non, de gueule, c'est qui? Et ange toi. T'as rien eu dit à Martine sur notre petit arrangement, gao?
Non, non, je te jure. Ça peut pas être elle, elle regarde les feux de la mort en bas.
Oui? Roméine?
Bonsoir.
Mais bonsoir. Mais dis donc, vous êtes la vraie Cathy, super nanny de la téloche ou bien?
Oui, mais ce que je viens d'entendre ne me plaît pas du tout.
T'en vas si chlos. Qu'est-ce que j'ai encore fait de faux, mes cols?
On ne peut pas soudoyer de la sorte un enfant. C'est tout simplement honteux, madame. Je crois qu'il est temps d'appliquer les nouvelles règles dans cette maison.
Oui, d'accord, Cathy, alors. Je vous écoute, hein.
Vous, madame, croyez-vous qu'en Baltie, nous sommes dans un état de non-droit? On ne peut pas enseigner à nos enfants la corruption. Kevin, tu vas immédiatement rendre la oui et l'argent.
Oui.
Et le playboy.
Oh non, pas le playboy.
Ce ne sont pas des lectures pour les enfants. Tiens, Kevin, voilà une Bible illustrée. Tu en liras un chapitre tous les soirs. Quant à vous, madame, vous irez crier les numéros du loto tous les dimanches à la salle communale. Et c'est comme ça que vous gagnerez votre vie dorénavant. Vous faites honte à la profession.
Bon, ok, Cathy. Et alles verstanden. Mais maintenant, rouvre toi, hein. Et loue que mal. Tu connais ça? C'est du schnapps. C'est Bobby qui l'a mis en bouteille, hein.
C'est une spécialité Boltz.
Eh oui, viens, allez, je te fais goûter cette affaire. Tu verras, c'est super bon.
Très bien, madame. Je suis curieuse. Je vais bien goûter.
Bon. Allez, Cathy. On oublie cette histoire ou bien?
Allez, vos cols. Versez-moi un petit glazélé de schnapps et puis on oublie tout.
Gamer.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
6.
Jamais 203.
Et Mike, qui s'intéresse à la presse people.
J'adore la presse people.
C'est vrai?
Bah oui, il faut bien quelque chose à lire sur son smartphone quand on est aux toilettes, hein. Pourquoi pas un peu de people, franchement, hein. Alors, lors de ma dernière commission, là, bah, j'ai sélectionné pour vous les journaux phares en la matière, à commencer par France Dimanche, évidemment, hein. C'est peut-être le plus ancien, le plus remarquable de tous les journaux people. France Dimanche, ça existait déjà quand j'étais tout petit. Et j'ai lu ce titre, Anne-Elisabeth Lemoine, cette habitude qui irrite son mari. Alors déjà, les présentations, qui connaît Anne-Elisabeth Lemoine?
Moi.
Ouais, elle fait quoi comme émission?
Je me souviens plus.
Non mais elle me dit vraiment bien, quelque ouais. chose.
Anne-Elisabeth Lemoine
présente C'est à vous sur France 5.
Voilà, exactement.
Voilà.
C'est la blonde, c'est ça. C'est
voilà.
juste Anne-Elisabeth.
Ça s'appelait comme ça.
Babette.
Que peut bien faire Elisabeth, Anne-Elisabeth Lemoine pour énerver à ce point son compagnon, le gentil Philippe Coelho, avec qui elle est mariée depuis 10 ans quand même. Alors je vous donne déjà des indices. C'est pas qu'elle ronfle, c'est pas qu'elle vide le chauffe-eau quand elle prend une douche, c'est pas qu'elle pète au lit, c'est pas qu'elle mange ses crottes de nez. C'est bien pire que ça. Je sais pas si vous avez une petite idée.
Qu'est-ce qui va être pire que tout ça?
Elle existe?
Ouais. La pauvre. Là, en fait, Anne-Elisabeth Lemoine, quand elle regarde un documentaire avec son mari,
elle le commente.
Elle appuie tout le temps sur pause pour prendre des notes. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça, madame, s'il vous plaît.
Moi, je reviens toujours en arrière.
Ça peut tuer des couples, ça.
Hey, moi, quand je comprends pas, moi, quand je comprends pas ou que faut que je revoie, je reviens toujours en arrière et c'est insupportable pour les gens autour
tu
de moi.
Tu fais ça pour les podcasts de cette émission aussi, j'imagine.
Oui,
hein.
Exactement. Mais chaque minute. Mais je vais réécouter par après parce que je comprends pas tout ce qui se passe pendant l'émission, en plus.
Ces gens travaillent avec moi, les amis. Ayez pitié pour moi. Donc, Anne-Elisabeth Lemoine se défend en disant déformation professionnelle parce qu'elle a du mal, effectivement, à décrocher de son métier de journaliste quand elle est dans le privé. Franchement, moi, si j'étais Philippe Coelho, je demanderais tout de suite le divorce. Hein. Les juges n'auraient même pas besoin de prendre du temps pour délibérer. Pas comme dans ce procès fleuve qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard. Hein. Rendez-vous compte, 13 heures de délibération. Est-ce que vous avez suivi un peu ce procès aussi, les gars?
Quelques bribes.
Ouais. Ouais, moi, j'ai suivi des vidéos marrantes, ouais. En fait.
On voit la gueule de Amber qui parfois fait la comédie. Elle faisait la comédie. Hein.
Ouais, c'est des acteurs avant tout. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Moi, je me souviens quand même du moment fort, c'est quand Johnny Depp avait accusé Amber Heard d'avoir fait caca dans le lit conjugal, hein, c'est au début du procès. Elle a dit, c'est pas moi, c'est les chiens. Lui, non, moi, je sais comment les chiens font caca, c'est pas du tout les mêmes. Ah là là, il y a du niveau, hein. Ouais, vous comprenez mieux pourquoi je lis la presse people quand je suis aux toilettes, les amis. Et heureusement que chez nos people, il y en a quand même qui remontent le niveau. Il y a des gens qui ont de la classe. Je parle évidemment d'Elisabeth II, jubilée de platine aujourd'hui. Hein, et ça parlait justement hier de la reine d'Angala avec ce titre. Grosse frayeur pour Elisabeth II, juste avant son jubilé, un homme tente de l'approcher. Mais qui ça peut bien être? Ce roturier, ce rustre, ce manant qui a tenté une manœuvre d'approche envers sa gracieuse majesté. Alors non, je sais ce que vous pensez, mauvais esprit, ce n'est pas Emmanuel Macron, hein, même si le président français a un penchant pour les vieilles dames. Par contre, Emmanuel Macron, il a offert quand même à la reine un des chevaux de la garde républicaine française. Hein, c'est pas mal, mais c'est pas lui qui a fait des manœuvres d'approche. Hein, je plaide en sa faveur. Non, c'est un gars du nom de Connor Attridge. Il a 28 ans et il a réussi à franchir les grilles du palais sur quelques mètres avant d'être arrêté par la sécurité. Et mine de rien, la reine, elle est très convoitée. Hein, le 26 avril dernier, un homme s'était déguisé en prêtre pour tenter de l'approcher. Le gars n'avait pas pu voir la souveraine, qui une fois de plus avait découché. Elle découche tout le temps, la reine, c'est pas raisonnable à son âge. Mais le mec, il avait quand même passé la nuit à ripailler avec les officiers de la reine. Hein. C'est ce que raconte le gars-là, donc il n'est pas venu pour rien. En fait, le seul visiteur qui a réussi à approcher Elisabeth II à ce jour, c'est un certain Michael Fagan, c'était en 1982. Ce Britannique avait débarqué complètement bourré dans la chambre de la reine, c'est authentique. Hein. Et après lui avoir lancé « Que faites-vous ici ?», sa majesté est sortie de la pièce, ses petits pieds nus courant sur le sol. Hein. Je cite Michael Fagan qui se souvient vraiment de cet épisode dans sa vie en 1982. Moi j'adore laisser l'image des petits pieds nus qui courent sur le sol. Hein. C'est l'image de la reine en train de courir. Je pense que si ça arrive encore aujourd'hui, on entendrait le grincement des roulettes du relator
d'Elisabeth
II, parce que c'était quand même il y a plus de 40 ans en arrière. Enfin, tout ça pour vous dire, les amis, que j'adore lire la presse people quand je suis aux toilettes. Et je me demande si la reine écoute Radio Fribourg quand elle est sur le trône.
Ah, joli.
C'était ma chute.
Bien vu.
C'était ma chute.
Ça a chu.
Ça a chu.
Votre chute a chu.
Je ne sais pas si vous êtes plus Elisabeth II ou Johnny Depp et Amber Heard dans la presse people vous-même.
Moi, le procès de Johnny Depp et Amber Heard, il me divertit un petit peu plus.
Ouais,
mais après, je sais pas quoi penser parce que vraiment, elle m'insupporte tellement. Elle m'insupporte presque autant que Camille Lelouch. Et du coup, je suis pas objectif parce que j'ai l'impression que Johnny Depp, il a totalement raison alors qu'en fait, on n'en sait rien. Mm-hmm. Il y a ce capital sympathie pour Johnny Depp et peut-être qu'en fait, eh ben, il est quand même fautif de certains trucs, on sait pas. Et ça me gêne un petit peu d'être tellement de son côté alors que j'en ai aucune idée. Je suis très influencé.
Mais ouais, c'est ça qui attire le public. Préféré Pirates des Carrés, bah Aquaman, tout simplement. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein.
C'est ouais. Ça qui attire le public dans ce genre de débat entre deux personnes, c'est qu'on peut prendre position. Ouais. Est-ce pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, c'est une sorte de match.
Puis moi, j'aime pas faire ça justement. Et là, j'ai pris position sans m'en rendre compte. Vraiment, je suis Johnny Depp follow.
Ouais, voilà, ce procès d'acteur où quand la réalité dépasse la fiction, ouais, hein, ouais. Ça peut arriver de temps en temps. La réalité dans quelques instants, eh bien, c'est une nouvelle. Attention, inédite. Enquête musicale par Jonathan. Ça arrive tout de suite sur Radio FR.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
On le sait, on arrive tranquillement à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on aime bien faire des bilans de l'année. Et on sait maintenant quels sont les prénoms les plus donnés en Suisse romande cette année. Alors, en 1, on aurait Alice pour les filles. En 2, Emma. Et en 3e, c'est Olivia. Oui, contre les mecs. Alors, les mecs, on a un autre classement. C'est Noah qui arrive premier. Liam qui arrive deuxième. Liam, oui, c'est comme vous voulez. Et puis Mathéo qui arrive numéro 3. Oui, Mathéo qui a dépassé Léon qui était numéro 3 l'année dernière quand même. Voilà, maintenant pour ce qui se passe au niveau des noms de famille en Suisse. Alors, les Müller sont les plus fréquents côté suisse alémanique et les Da Silva sont les plus fréquents en Suisse romande. C'est là qu'on a le plus de Da Silva en Suisse romande. Concernant les noms de famille bien suisses, on a les Favre aussi qui arrivent parmi les noms les plus répandus en Suisse. Salut à tous les Favre qui nous écoutent. Bah, sachez que vous êtes nombreux. Ça veut dire que des Noah Favre, il doit y en avoir pas mal quand même. Hein. Radio FR, hey
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Moi, pas du tout. Non, alors, moi, pas du tout. Ça sort cette envie de faire une petite messe.
C'était juste comme ça. Je suis pas sûre que j'aurais l'énergie, là, mais...
Alors, moi, ça me donne envie de rester assis et de regarder des gens qui font du fitness. Tu veux. Ça me bat aussi.
C'est très efficace pour perdre de l'énergie, ça, oui.
Absolument.
Nickel.
Ah oui, moi, ça me fatigue immédiatement de voir des gens... hyper excité sur Coldplay, Higher Power. Faites-le seulement, moi je regarde, je ris. Ça va très bien. Bon.
Ouais, une.
On parle tout à l'heure dans la chronique série télé, ce sera juste avant 10h avec toi Cindy d'ailleurs, on parle de Squid Game aujourd'hui.
Oui.
C'est la série dont tout le monde parle. Justement, on en a parlé aussi dans l'info tout à l'heure avec Lauriane Schott pour dire que les déguisements qui sont inspirés de la série sud-coréenne Squid Game sont interdits pour Halloween à New York. C'est vrai que ça pose gentiment problème tout ça.
Bon, c'est vrai que c'est hyper violent, c'était pas du tout adapté aux enfants et puis à New York enfin, aux États-Unis en règle générale, c'est beaucoup les enfants qui participent à ça, même les écoles. Hein, c'est moi, j'avais passé d'ailleurs un vendredi pré-Halloween à New York il y a 6 ans en arrière, et les rues sont remplies d'enfants qui sont déguisés, qui vont à la chasse aux bonbons, etc.
C'est une autre dimension qu'ici. Hein, ça c'est clair.
Clairement.
Nous, ça commence, par période un peu plus, par période un peu moins, mais c'est une autre dimension.
Là-bas, c'est clairement une fête ancrée, très importante. Ouais. Moi, je trouve que ça fait sens parce que c'est vrai que c'est pas du tout adapté aux moins de 16 ans. Et puis, on voit que les enfants qui se baladent dans les rues, c'est des enfants clairement de moins de 16 ans.
Mais ce qui est bizarre, justement, avec ce Squid Game, c'est que c'est des jeux d'enfants. 1, 2, 3 soleils, par exemple, c'est ce qu'on fait dans la cour d'école. Pareil qu'ici, on joue un petit peu à ce genre de choses, quand même.
Oui, alors pour l'instant, visiblement, il n'y a pas eu de problème. C'est juste qu'ils mettent en garde. Mm-hmm. Après, c'est vrai que cette série, elle est particulière. Il y a tout ce côté très enfantin, des couleurs très pastels, très chou comme ça, il y a des dessins très enfantins, il y a cette poupée que vous avez certainement déjà vue passer, et en fait derrière ça, il y a une violence mais atroce, donc c'est un peu le contraste entre les deux qui fait je pense, un peu le succès de cette série. Il y a ce côté simple,
voilà,
mais finalement hyper méga violent.
Mais il ne faut pas banaliser tout ça.
Non, voilà. Non, clairement pas.
C'est un peu notre message ce matin.
C'est ça.
De deux vieux.
Oui, c'est ça. Et deux vieux moralisateurs. Voilà. Non, mais à part ça, c'est vrai qu'en tant que parent, on devrait quand même expliquer ou voir avant ses enfants, si on n'est pas sûr qu'ils nous posent la question, au moins aller regarder juste la bande-annonce. Honnêtement, rien que la bande-annonce, ça montre c'est bien le niveau de violence. Ça permet de se rendre compte que ce n'est pas adapté à eux.
Ah bah moi, je suis un grand enfant parce que même la bande-annonce, je n'ai pas osé.
Alors, tu vois, si même toi, vieux comme ça, tu n'oses pas.
Non, moi, je ne suis pas trop attiré par ce genre de choses comme ça. Donc voilà, Squid Game, faites attention, Halloween. Et puis, on en parle tout à l'heure, donc juste avant 10h, de la série en elle-même qui cartonne en ce moment. On entend parler partout. Il y a même, j'ai vu sur TikTok aussi, il y a des gens qui commencent à... Il y a aussi une partie où ils jouent à un 2-3 soleil aussi.
Okay.
J'en ai vu qu'une, puis elle était très humoristique. C'est plutôt drôle. Donc ça allait. J'ai pas trop eu peur. C'est bon.
C'est bon. Sinon, je te tiens la main.
C'est parfait. Avec Justin Timberlake, Say Something.
Oui, moi je veux bien lui tenir la main aussi. Décidément, ce matin.
Décidément, Cindy.
Je sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est hormonal.
Elle veut faire du fitness et tenir la main un petit peu de tous les artistes ce matin. Ça va bien, bon vendredi matin finalement.
Ben voilà, c'est bientôt le week-end.
C'est bientôt le week-end. Il est 6h45.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Il sera libre Fry, voilà. Vous pouvez même le faire sur l'air de la chanson Il est libre Max, si vous voulez.
C'est vrai que c'est pas mal. Là, on tient une parodie, là.
On tient quelque chose, on va y penser.
Radio FR, la météo. Avec le garage Chuard, votre partenaire de confiance Honda à Courcelles-Payerne.
Demain, des nuages bas en début de journée, ça va se dissiper assez vite. Il fera entre 9 et 16 degrés. Pour notre week-end, samedi, pas mal, 8 à 16 degrés. Dimanche, par contre, arrivée des pluies. Cette dégradation, ça va nous faire une méchante baisse du mercure. Il fera plus que 9 degrés.
Radio FR, Radio Fribourg sur le réseau câblé fribourgeois sur 90.85. Après Brie et Rex Van de Kamp.
Tu veux réellement que je te fasse mal?
Pour que je ressente du plaisir, oui.
D'accord. Alors, tu as joui, toi aussi?
Le club de Rio et Tania.
Ah, quelle jouissance de retrouver Tania et JD, c'est extraordinaire. Ça va, Tania?
Oui.
Ça va, JD?
Attendez, je m'excuse, je rejoue un peu le... Voilà, bonjour.
C'est ça que j'adore, ce JD.
Oui, ça va.
Voilà.
Ah, fait du bien.
Hein. Ah ouais.
On est jeudi, on se retrouve ensemble, enfin. C'était long.
Ah bah dis donc,
hein.
Oui, c'était le club de Rio et Tania, ces dernières semaines. Hein.
Sans Tania.
Voilà.
Ouais.
C'était ou l'un
triste.
Ou l'autre.
C'était un petit peu triste pour moi. Pour vous aussi, j'espère.
Bah oui, bon, on a quand même bien rimé, mais...
Ah, j'espère quand même que vous êtes familier.
On a parlé un peu de fantômes aussi la semaine dernière.
Ah, racontez-moi. Vous avez appris des trucs?
Ah bah, il y a plein de choses qu'on nous a dit, même hors antenne.
Même hors antenne.
Ah bah, ça en passe des choses.
Des histoires folles de fantômes.
Ah, des
histoires incroyables. Mais dans la région de Fribourg?
Oui, oui.
C'est sérieux?
Bah, vous pouvez écouter le podcast. Hein,
d'accord.
Pour ceux qui n'auraient pas entendu l'émission, vous pouvez choper le podcast sur radiofr.ca.
www. Et oui. Ah bon, c'est très bien.
Et puisqu'on est très internet, je crois que JD a déjà ouvert son Facebook.
Absolument pas.
Pas non, attendez,
ce serait pas quand même. Je sais pas ce qu'il bricolait, mais il faisait quoi? Tu faisais quoi là? Il y a qui là? Il y a qui sous le bureau là?
Là, il y a personne sous le bureau. Il y a juste un petit giggle. Voilà, où on branche nos casques en fait, qui ne fonctionne plus très bien.
Puis, ah voilà, il réparait en fait.
Non, justement, j'essaye. Eh bien, personne n'a rien dit. Voilà pourquoi.
C'est l'instinct du réparateur, du technicien.
Et je voulais vous dire, Brie et Rex Van de Kamp. Rex Van de Kamp, il est mort depuis bien longtemps et enterré.
Il faudrait qu'on refasse le jingle.
Ça dépend sur quelle chaîne.
Ouais, ça dépend
sur
quelle chaîne.
Sur Teva, il vient de naître.
Alors pour ceux et celles qui ont eu la chance déjà de voir la saison 7.
Un petit bout.
Alors on sait en tout cas, moi ça je le balance.
Vous avez aussi un cousin qui habite de l'autre côté de la...
De la rue?
De la gouille, là.
Non. Brie Van de Kamp, à l'époque. D'accord.
Elle balance la saison 7, t'imagines que même gens qui regardent sur la TSR, ils en sont à la 4.
Je peux juste vous dire que si vous avez
été... Elle peut balancer parce que moi, je ne regarde plus.
Non, donc, mais si vous avez été déçu des deux saisons précédentes,
ouais.
Là, vous allez enfin retrouver l'esprit d'Esperate Housewives. Ça revient avec Brie en grande splendeur. Et je le dis, allez hop, elle se fait un petit jeûne. Et ce petit jeune, vous savez qui c'est en fait? Longtemps, je me suis dit, c'est Justin Timberlake.
C'est une grille juste avant que j'y arrive.
C'est l'employé qu'elle a engagé. Ouais. Ah, voilà, ouais. Oui. Alors ça, j'ai vu un petit bout, oui.
Tu as vu?
Oui.
Alors en fait, c'est le gars qui jouait dans Beverly Hills. C'était le frère de Donna. Mm-hmm. Vous vous souvenez de Donna, celle qui a été refaite de la tête au pied?
Il était tout jeune, là.
Ouais, mais tu le reconnais quand même, il a vachement bien grandi.
Ah, Tania, elle aime beaucoup la.